ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous tous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. » Amen. Alors, visiblement pour Luc, cette guérison a une importance considérable puisqu'il est dédie deux chapitres entiers à raconter cet événement, chapitre 3, chapitre 4. Parlent tous un peu de la même chose, ce qui est assez rare pour Luc de consacrer tant de textes à un seul événement. Mais si vous regardez bien, finalement, ni Luc ni Pierre vont mettre l'accent sur la guérison. Ils vont mettre l'accent sur quelque chose d'assez précis, d'assez particulier. Vous l'avez certainement remarqué, on parle beaucoup du nom. Le nom de Jésus. Et c'est vrai, les chrétiens parlent souvent du nom de Jésus-Christ. Déjà ce matin, on a prié souvent au nom de Jésus. On baptise au nom de Jésus, du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et même selon le livre des Actes, devenir chrétien à la base, ça s'explique tout simplement à invoquer le nom de Christ. Et quiconque invoquera le nom sera sauvé. Bien sûr, on ne parle pas juste de se renseigner ou connaître un nom et un prénom. Jésus-Christ, ce n'est pas tant nom et prénom. Alors, ce passage va nous aider à comprendre un peu l'importance, la clé de cette idée du nom, le nom de Christ, tout ce qui est derrière ce nom. Alors, nous allons tout d'abord voir l'insistance sur ce nom, ensuite l'identité dans le nom, ensuite l'exclusivité du nom et enfin la beauté du nom. L'insistance sur le nom, ça sort de manière très forte dans ce texte. Tout d'abord, c'est Pierre quand il dit « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche », ça c'est en verset 6. Et puis il va répéter en verset 16 « C'est par la foi en son nom a raffermi celui qui vous voyez et connaissez ». Puis en chapitre 4, verset 7, c'est ce qu'on leur demande, mais par quel pouvoir ou au nom de qui vous faites ces choses? Et puis Pierre, il profite, il dit, sachez-le tout, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'on fait ça. Et puis, bien sûr, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom. Et puis, même Yvan, en verset 17 et 18 qu'on n'a pas lu, c'est les autorités qu'on vient de leur défendre de parler en ce nom-là. Verset 17, vous le voyez, défendant-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ont appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Alors, il y a vraiment une insistance ici sur le nom de Jésus, et pour Pierre, pour Luc, et qui écrit ce récit. Et il va insister sur ce nom pour expliquer ce miracle, cette guérison. Parce que même les ennemis, même les opposants reconnaissent que quelque chose s'est passé. Vous avez en verset 16, même eux, à vous, il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Alors c'est bon signe quand même les plus opposés sont prêts à admettre la réalité de la chose. Mais comment l'expliquer? Ça, c'est leur grand souci. En plus, cette guérison, c'est un homme particulier, parce qu'on pourrait dire que c'était un homme, c'était peut-être un des meilleurs, le personnage le mieux connu de toute la ville. Un des personnages le mieux connu de toute la ville, parce que le voilà, il est tous les jours, depuis des années, on apprend qu'il a plus de 40 ans, boiteux depuis sa naissance, donc tous les jours on lui apporte là, Et donc il se trouve sur le passage certainement le plus fréquenté de la ville. Et là, il est en train de sauter partout. Et donc, ça fait des milliers qui peuvent en témoigner, en constater. Et tout le monde veut savoir, mais comment se fait-il? Et ce que Pierre dit, vous voulez savoir comment il a été guéri? Alors, l'explication que donne Pierre, c'est le nom. Le nom. Et pas autre chose. C'est le nom et pas autre chose. D'abord, il dit en verset 12... C'est pas notre piété et c'est pas notre puissance. Là, il va être très clair là-dessus. Ce n'est pas à cause de notre piété, ce n'est pas à cause de notre propre puissance. Il aurait pu, comme d'autres ont fait, il aurait pu mettre son nom en avant. Moi, je suis le grand apôtre Pierre, moi, je suis le grand guérisseur. Mais non, il parle pas comme ça et il insiste sur le nom de Christ. Et quand il est rempli du Saint-Esprit, en chapitre 4, verset 8, voilà, encore il va dire, mais sachez-le tout, c'est par le nom de Jésus-Christ. Plus on est rempli de l'Esprit, plus on parle de Jésus-Christ, et non pas de soi-même, non pas de ses dons, non pas de ses guérisons, non, on ne parle même pas tant de l'Esprit, on parle de Jésus-Christ, de son nom. Alors, on n'insiste pas sur Pierre, ou son apostolat, ou son don, on insiste sur le nom de Christ. Ensuite, on peut dire que ce n'est ni Pierre le héros de l'histoire, mais ce n'est pas non plus le paralytique par sa grande foi. D'ailleurs, ce paralytique, on ne connaît même pas son nom à lui. On ne le met pas en avant. Parce qu'on pourrait croire que c'était peut-être lui il a eu une foi extraordinaire pour se lever comme ça. Et donc, c'est lui le héros de l'histoire. Mais ce n'est même pas ça. D'ailleurs, on a eu une discussion au groupe de jeunes à ce sujet. Je suis reconnaissant pour leur contribution parce que un peu la discussion c'était, mais où est-ce qu'on voit la foi de cet homme? Est-ce que ce passage célèbre vraiment sa foi, sa grande foi? C'est vrai, en verset 16, c'est par la foi en son nom que son nom a affirmé celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. De prime abord, on a envie de dire, c'est pas tant sa foi à lui que la foi de Pierre. C'est Pierre qui a parlé comme ça, avec grande foi, lève-toi et marche. C'est Pierre qui lui a pris par la main et levé. Il est tout fort possible que il dit, c'est pas notre puissance, c'est pas notre piété, c'est le nom, c'est la foi en Christ qui a opéré cette guérison. Mais il y a même une traduction, à mon avis ce verset est un peu difficile à traduire parce que j'ai remarqué que toutes les traductions apportent une tournure différente, mais j'aime pas mal le Darby qui dit finalement c'est son nom, la foi en son nom qui a affirmé cet homme que vous voyez et que vous connaissez, et la foi qui est par lui, la foi qui est par Christ, a donné à celui-ci cette entière disposition de tous ses membres. La foi qui est par Christ, la foi qui est par lui, par son nom. Et quelque part, quand Pierre dit au nom de Christ, lève-toi, on pourrait voir que voilà, c'est non seulement ça crée la guérison physique, mais ça suscite, ça crée la foi en lui, la foi qui est par Christ. Donc encore, c'est Christ qui est mis en avant, c'est son nom. C'est bon à rappeler de ça. Dans le Nouveau Testament, on ne fait jamais dépendre le miracle sur la foi du malade. On dirait jamais dans le Nouveau Testament, si tu as la foi, tu seras guéri, et si tu n'es pas guéri, tu n'as pas eu la foi. C'est mettre toute la puissance chez la personne et non pas chez Dieu, son nom, ses capacités. Mais ici, cet homme, on ne pouvait pas conclure que c'était un rempli de foi. On le trouve en train de demander l'aumône. Et puis Pierre et Jean, ils regardent nous et ils s'attendent encore à l'aumône. C'est encore pas la grande foi là. Et c'est Pierre qui le lève au nom de Christ. Donc c'est encore le nom de Christ qui fait tout le travail. Bien sûr, lui trouve avec ses jambes, c'est nouvelle jambe, il va profiter pour louer, pour sauter. Donc on le voit rempli de foi. Mais la guérison ne s'est pas opérée à cause de ça. Non, tout ce passage insiste sur le nom. Et en chapitre 4, quand on arrive à chapitre 4, c'est pas tant la guérison qui provoque les grandes réactions, c'est l'insistance sur le nom. Et on a des grandes réactions à la fois positives, il y a des milliers qui se convertissent, et on a des réactions à la fois négatives, il y a une opposition farouche qui commence en ce chapitre, qui va durer tout le long du livre des Actes, cette opposition farouche. Ils sont pas tant contre la guérison, ils sont contre le nom. Le nom de Christ. C'est le nom qui fâche et c'est le nom qui sauve, et c'était toujours le cas. Donc ça, c'est l'insistance sur le nom. Maintenant, il faut parler un peu de l'identité derrière le nom, l'identité dans le nom. Parce que lorsque nous, on parle d'un nom, on pense souvent au prénom et au nom de famille, et ça s'arrête là. Mais dans la Bible, le nom, c'est bien plus, ça représente toute une identité. On chante parfois dans nos cantiques, quel beau nom porte celui d'Emmanuel, quel beau nom. Quand on parle d'un beau nom, c'est pas vraiment les cinq lettres qui ont une sonorité extraordinaire. C'est bien plus que ça, c'est toute l'identité que ça représente derrière le nom. Vous avez par exemple les témoins de Jéhovah qui mettent tout l'accent sur le mot même Jéhovah, sur la séquence des lettres, mais c'est pas tant ça l'idée dans la Bible. En tout cas, c'est pas l'idée de Pierre ici, le nom de Christ. Déjà dans les temps bibliques, c'est vrai que le nom de quelqu'un était plus révélateur de son identité que pour nous, peut-être. Combien d'entre nous donneraient le prénom magouilleur à un de nos enfants? Probablement pas. Mais il y avait un homme qui s'appelait magouilleur, et il était magouilleur toute sa vie, jusqu'à ce que Dieu change son nom et l'appelle vainqueur, lutteur vainqueur, c'est-à-dire Israël. Donc Jacob, qui veut dire trompeur, magouilleur, et puis Israël, qui veut dire lutter avec Dieu, vainqueur. Donc, voilà, le nom, c'est plus que juste un prénom sur les papiers. C'est tout ce que représente une personne dans la Bible. Et parfois, on trouve même dans la Bible cette question, quel est ton nom? Quel est ton nom? Parfois, c'est l'homme qui le demande à Dieu, quand il se retrouve en présence d'une manifestation de Dieu. Et parfois, c'est Dieu qui le pose à l'homme. Quel est ton nom? Et bien sûr, on reconnaît que ce n'est pas juste le simple fait de se présenter, mais c'est demander, mais qui es-tu vraiment? Qui es-tu vraiment? Et quand Dieu demande à Jacob, quel est ton nom? Il avait tout un message à lui dire. Et quand les hommes ont demandé à Dieu, mais quel est ton nom? Ils ont après compris qu'ils étaient en face de Dieu. Donc, c'est plus qu'une simple séquence de lettres. Et c'est un peu l'idée ici, dans ce passage, bien sûr, cette identité qui ressort si fortement. Pierre va profiter de cette guérison, cet acte de Jésus, pour rappeler, annoncer, prêcher son identité, qui il est vraiment. Et c'est ce que veut dire maintenant ce nom. C'est pour ça qu'il insiste sur le nom. C'est intéressant déjà de regarder dans son message, dans sa prédication, qui va du verset 12 à verset 26, on n'a pas tout lu, mais rien que dans cette prédication, il y a beaucoup de noms de Christ qui ressortent, non seulement Jésus-Christ de Nazareth, mais Pierre l'appelle le Saint, le Juste, en verset 14, le Prince, ou bien l'Auteur de la vie. Il appelle le Seigneur, le Christ. Il est appelé aussi le prophète comme Moïse, et puis aussi le serviteur. Pour les Juifs, c'était très parlant, ces termes, c'était des termes presque spéciaux et officiels, le serviteur, le prophète comme Moïse, qui avait une grande dignité, grande autorité, un grand rôle à jouer, et Jésus, ce Jésus de Nazareth est appelé ainsi. Ça, c'est juste dans la petite prédication de Pierre, sans parler toute la Bible, tout le Nouveau Testament et tous les noms que Jésus lui-même s'est attribué ou s'est donné. Alors tout ça mérite réflexion quand on pense à ces noms, ces titres qu'on attribue à Jésus. Un homme aujourd'hui qui se réclame de ces titres, que faut-il penser de lui? J'avais lu un article une fois, j'ai pensé à cet homme, Idi Amin. Il était chef d'État d'Ouganda pendant les années 70. Il était un peu excentrique comme dictateur, mais il s'est donné des titres. Voilà son titre officiel. Son Excellence, Président à vie, Maréchal, Al-Hajj Docteur, Idi Amin Dada, VS, DSO, MC, Seigneur des bêtes de la terre et des poissons de la mer, conquérant de l'Empire britannique en Afrique et en particulier de l'Ouganda, omniprésent roi d'Écosse. Il était conquérant de l'Empire britannique parce qu'un jour il s'est brouillé avec l'ambassadeur britannique qui a quitté son pays, et donc il était conquérant de l'Empire britannique et omniprésent roi d'Écosse. Il avait juste une fascination pour l'Écosse, donc il s'est proclamé roi d'Écosse. Rien que ça. Ou bien vous avez plus récemment Kadhafi qui se faisait appeler le roi des rois d'Afrique, le roi des rats d'Afrique. Rien que ça. La chose, c'est que le nom et les titres de Jésus sont encore plus extrêmes, et il n'était pas chef d'État, il était charpentier. Charpentier de Nazareth, et il s'est attribué tous ces titres. Alors on commence à comprendre pourquoi les réactions étaient tout sauf neutres et indifférentes face à ce nom-là, ce personnage-là, cette personne-là. Et vous avez Jésus, il s'est pris pour Dieu, il est mort dans l'ignominie, tué par ses adversaires, comme bien d'autres qui sont pris pour Dieu, qui sont morts par la suite. Mais un mois plus tard, c'est ça qu'il faut, un mois plus tard, on commence à voir des milliers qui se convertissent, qui invoquent son nom et qui lui attribuent joyeusement, humblement, avec repentance, ses titres, le Seigneur, le roi des rois, le ressuscité, le prince de la vie, y compris les mêmes qui l'ont fait crucifier, c'est ceux-là même qui sont prêts à l'appeler ainsi, à lui donner ce nom-là. Mais est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? On imagine difficilement les Libyens faire ça aujourd'hui pour Kadhafi, quelques mois plus tard. Mais les chrétiens, les premiers chrétiens, ils se trouvent quelques jours après la mort ignoble de Jésus-Christ. Mais au lieu de qu'il simplement rentre dans l'histoire et on ferme cette page d'histoire, au contraire, les premiers chrétiens, ils l'ont vu vivant, ils ont affirmé qu'il était vivant, agissant, et ils ont vu ce genre de prodige, de signe comme preuve qu'il était encore là. Donc, effectivement, l'histoire de Jésus, les titres de Jésus, l'histoire des premiers chrétiens nous oblige à un peu confronter cette question de l'identité de Jésus-Christ. Et quand on commence à réfléchir sur ces noms, ces titres qui s'est donné, et puis la vie qui allait avec, eh bien, c'est assez fort. Et du coup, le verset 12, quand on arrive au verset 12, si Jésus est bien celui qui a dit être, s'il mérite bien ces titres, ces noms, alors le verset 12 n'est pas si choquant, après tout, quand il dit, c'est la grande conclusion de Pierre, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc, et là, j'aimerais parler de l'exclusivité de ce nom. Parce qu'aujourd'hui, c'est justement ce genre de propos qui passe mal, qui donne à la Bible, à la foi chrétienne, une mauvaise réputation, en quelque sorte, quand on affirme de telles choses. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par les hommes parmi lesquels nous devrions être sauvés. C'est-à-dire, ce verset, difficile d'être plus clair, parce que Paul, il parle de cette exclusivité dans des termes assez forts. Il dit aucun autre nom sous le ciel, c'est comme s'il englobe toute la terre, parmi les hommes par lesquels nous pouvons être sauvés. Alors, tout de suite, alors, quand on parle comme ça aujourd'hui, ça c'est manquer de tolérance, c'est manquer de respect. Mais la chose c'est que si l'identité de Jésus-Christ est bien celle qu'il a affirmée, l'identité derrière son nom, c'est non. Si l'identité de Jésus est bien celle qu'on trouve dans la Bible, vous voyez qu'finalement il n'y a pas d'autre conclusion possible. Je me souviens, j'avais vu un pasteur, il était interviewé par un journaliste dans un cadre séculier, un cadre même hostile à la foi chrétienne. Et le journaliste, ils ont posé cette question tout de suite. Mais voilà, vous les chrétiens, c'est bien, mais les autres religions, ces autres religions avec des millions de croyants sincères qui s'appliquent, qui vivent leur croyance, leur foi. Selon vous, ils sont tous dans l'erreur, ils sont tous perdus, c'est ça, hein? Alors dans ces situations, il faut être diplomate, il faut être sage, mais il faut aussi dire la vérité. Et j'ai apprécié sa réponse. Il a dit, ouais, je réponds. Ma réponse est oui, si Jésus est bien celui qu'il a dit être. Oui, si Jésus est celui qu'il a dit être. Donc il faut établir l'identité de Jésus-Christ. Il faut regarder ce qu'il a affirmé être, et puis si sa vie, ses paroles correspondaient. Et si Jésus est bien celui qui a dit être, alors oui, c'est une conclusion normale. À partir du moment où il est le seul qui est mort pour nous, le seul qui est ressuscité pour nous, eh bien, de là, c'est pas difficile à dire. Oui, c'est le nom au-dessus de tout autre nom. Il n'y a de salut en lui. Et cette assurance n'est pas l'arrogance, cette assurance, c'est le salut qu'on offre. Et dans ces cas, Pierre, finalement, il ne s'est pas gonflé, ce n'est pas intolérant, ce n'est pas arrogant de parler comme ça, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Non, c'est plutôt la chose la plus aimante à dire, la plus respectueuse à dire à cet homme. J'imagine, cet homme qui demandait l'aumône, il aurait pu dire, bon, je respecte tes convictions, je te donne de l'argent, et pas plus. Mais il avait tellement mieux à lui donner, et il a dit, non, je ne vais pas te donner ça, je vais te donner ce que j'ai, Christ, je te donne le nom de Jésus-Christ. Donc, oui, on comprend que cette exclusivité est un des obstacles majeurs dans notre monde moderne, qui veut que tout le monde ait et raison. On reproche les chrétiens d'être intolérants dès qu'on parle dans ces termes. Mais je pense que le monde devrait aussi reconnaître que finalement, tout le monde agit au nom d'une valeur suprême qui ne peut qu'exclure ceux qui ne sont pas comme eux. Notre société moderne se veut très ouverte, très tolérante, mais sur certaines choses, elle est très fermée et très exclusive. Et on peut très bien, au nom de la liberté, au nom de la tolérance, supprimer la liberté ou devenir intolérant, méchant. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? La Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre que Jésus-Christ. Que dit notre monde moderne aujourd'hui? On dit qu'il n'y a de salut que dans l'individualisme radical où chacun définit sa propre vérité, sa propre moralité, sa propre sexualité. Et on crie blasphème à tout ce qui disent le contraire, et tous les autres en tort, et même les autres n'ont pas droit de parole, etc. Donc, vous voyez, l'exclusivité est même inévitable. Même ceux qui se disent très, très tolérants, très ouverts, ils sont intolérants sur cette vision du monde, cette vision de la vérité, cette vision de l'existence de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que les chrétiens peuvent apporter dans tout ça? Est-ce que ça va juste crisper le débat quand on revient ici constamment? Il n'y a de salut en aucun autre que Jésus-Christ. L'exclusivité de ce nom, et cela, j'aimerais terminer avec la beauté du nom. La beauté du nom. C'est ce qui sort si fort ici quand vous lisez chapitres 3 et 4. C'est pas une histoire d'intolérance de la part des apôtres, c'est une histoire de bénédiction, une histoire de guérison, une histoire d'amour, une histoire d'aide. Et Pierre va prêcher un message fort, va dénoncer le péché, va parler de l'exclusivité de Jésus-Christ, mais regardez la personne qui prêche, le nom qui prêche. En versets 14 et 15, on a quelque chose de très beau qui ressort. Il parle à cette population, à Jérusalem, et il dit en verset 14, « Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie,
que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Et après, il va les inviter à se convertir, à venir à Christ. Je trouve que c'est pas mal. Il dit, regardez ce que vous avez fait. Vous avez donné la vie à un assassin et vous avez assassiné l'auteur de la vie. Vous avez donné la vie à un assassin, c'est Barabbas. Et puis, vous avez assassiné l'auteur de la vie, le prince de la vie. Le prince, c'est une meilleure traduction, c'est l'auteur de la vie. Alors, c'est déjà le comble. Là, vous avez accolé la vie à un assassin et vous avez enlevé, ôté la vie à celui qui s'appelle la vie. Voilà ce que vous avez fait. Mais encore plus fort, c'est que cet auteur de la vie, ce prince de la vie, qu'est-ce qu'il offre à ces assassins? Qu'est-ce qu'il offre à des gens qui sont opposés à lui? Eh bien, il leur offre maintenant le pardon, l'amour. Il leur offre la vie. L'auteur de la vie, on lui a crucifié et puis ressuscité. Il revient vers ces gens qui l'ont crucifié et dit maintenant, je vous offre la vie. Et ça, je dirais, c'est l'ultime geste de tolérance. C'est l'ultime geste de tolérance. C'est beau. Donc, vous voyez ce qu'on a dans la personne de Jésus-Christ. Dans la personne de Jésus-Christ, c'est vrai, c'est le seul qui dit, je suis le chemin, nul ne vient au Père que par moi. Mais c'est aussi le seul qui dit, pour que vous ayez ce chemin, je donne tout, je m'offre entièrement. C'est le seul qui offre la vie, le pardon, l'amitié à ses assassins, à ses ennemis. Et ça, c'est fort en Jésus, à la différence de ces hommes qui se donnent des titres pour se vanter, se glorifier, où l'on ne peut que constater qu'il y a une démence, où il y a une mégalomanie terrible. Ce n'est pas ce qu'on trouve en Jésus-Christ quand on regarde ce personnage. On ne trouve pas la démence, on ne trouve pas l'orgueil, on ne trouve pas l'intolérance dans sa vie. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la beauté, on trouve la noblesse, on trouve la patience, on trouve l'amour, même pour ceux qui sont radicalement opposés à son message. Et ça, c'est la foi chrétienne. Et je dirais qu'aujourd'hui, l'Occident n'aura aucune notion de tolérance, notion qui nous est très chère aujourd'hui. L'Occident n'aurait aucune notion de tolérance si, à la base, il n'y avait pas eu l'influence de Jésus-Christ, de la foi chrétienne, qui finalement nous a laissé quand même un héritage. Parce que vous regardez dans le monde ailleurs, quand il n'y a pas l'influence chrétienne, voilà, la tolérance est beaucoup moins pratiquée. Mais justement, la beauté de Christ, la beauté de son nom, c'est ceux qui se réclament de lui, qui portent le nom Christ, les chrétiens, eh bien, ils deviennent comme lui dans cet aspect. Et même pour ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, ils peuvent les aimer parce que c'est exactement ce que Christ a fait pour nous. Ça, c'est vraiment la beauté de ce nom. Que ce nom exclusif, c'est aussi le nom, la personne qui a donné sa vie pour ses ennemis. Et finalement, comme vous regardez le Nouveau Testament, comme vous lisez ces récits de guérison, il faut se dire que chaque miracle de guérison est une invitation pour nous à s'y retrouver, à se voir. C'était d'ailleurs notre condition spirituelle. C'est une évidence, il me semble, qui ressort dans tout le Nouveau Testament. Toutes les maladies, les problèmes que Jésus a guéri, que ce soit l'aveuglement ou la paralysie ou le lèpre, tout ça, ce sont des images évidentes de notre péché, de notre condition spirituelle. L'aveuglement, on n'arrive pas à voir Dieu et sa beauté et sa gloire. La paralysie, on, spirituellement et moralement, on est boiteux, on est paralytique comme cet homme. Les lèpres, voilà, c'est cette impureté qui est attachée à nos péchés. Et pour guérir tout ça, oui, il n'y a que Jésus-Christ, à cause de ce qu'il est, à cause de ce qu'il a fait à la croix, par sa résurrection. Et c'est pour ça que son nom, Jésus-Christ de Nazareth, et qui rappelle son œuvre, son identité, est absolument nécessaire pour nous et pour que nous connaissions une guérison. Et vous voyez ce que Jésus a fait. Ce qu'il a fait, finalement, c'était échanger son identité pour la nôtre. Nous qui étions impurs comme ça, boiteux, paralytiques comme ça, lui qui était en pleine santé, debout au ciel, quelque part, il a échangé son identité pour la nôtre. Et même cet homme, je pense à cet homme assis à la porte du temple, boiteux. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a fait tout le chemin inverse de cet homme. Jésus, lui, il va sortir. Cet homme entre dans le temple. Jésus, un jour, il est sorti du temple après son sorti de Jérusalem. Et lui, le Tout-Puissant, il va boiter, il va trébucher sous le poids de la croix. Lui, on va paralyser ses chevilles parce qu'on va y placer des clous. Il porte vraiment nos peines, nos souffrances, nos péchés. Il se fait anéantir. Mais après, il saute hors de la mort, il sort hors de la tombeau et il nous entraîne avec lui. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, son nom, sa personne, c'est le seul qui sauve. Et nous pouvons l'en suivre. Nous pouvons, comme cet homme, marcher, sauter, louer Dieu jour après jour, parce qu'il nous a donné, opéré une guérison parfaite de notre cœur, de notre âme. Prions. Seigneur, merci. Nous voulons mieux comprendre ce nom qui sauve, cette identité en Jésus-Christ. Merci de nous avoir envoyé un sauveur si parfait, un sauveur si exceptionnel. Seigneur, c'est vrai, en considérant sa personne, ses paroles, ses œuvres, sa puissance, on ne peut que conclure qu'effectivement, il est le mieux placé pour être notre sauveur, notre ami. Il peut faire ce que nul autre ne peut faire, nous guérir parfaitement. Et nous te prions qu'il le fasse encore pour nous ce matin, qu'on sache...